On va continuer avec Monsieur Dominique Buisson, donc de l'établissement public foncier d'Occitanie. Les établissements publics fonciers sont en charge en partie de faire des réserves foncières, mais aussi surtout qui ont des compétences en ingénierie pour conseiller tous les EPCI et les structures pour savoir comment tout gérer et anticiper leurs projets. En 2020, il y avait 24 établissements publics fonciers locaux, dont celui du Grand Toulouse et celui de Perpignan. Il y avait 10 établissements publics fonciers nationaux, dont celui d'Occitanie. Je vous laisse la parole.
Merci, bonjour à tous. Alors non, je ne dirige pas l'établissement public foncier d'Occitanie. Moi, je ne suis que directeur sur la partie ouest, c'est-à-dire sur l'ex-région Midi-Pyrénées. En effet, nous, on est un outil opérationnel. Hein. On travaille sur les questions foncières. On a un outil qui a deux grandes missions. La première, c'est de mener des missions de portage foncier, c'est-à-dire d'aller acheter des fonciers pour le compte et à la demande des collectivités locales qui font appel à nous. Et pour bien la faire, cette première mission, on a besoin de faire une deuxième mission qui est de déployer une grosse offre en ingénierie d'appui, de conseil aux collectivités locales parce qu'on travaille sur des sujets de plus en plus complexes qui nécessitent différentes formes d'ingénierie, notamment juridique, mais pas seulement. Voilà. Alors on accompagne en Haute-Garonne une soixantaine de communes, dont 12 sur votre territoire, sur le territoire du PETR. On travaille évidemment à côté aussi, hein, sur l'Ariège, sur le Gers. Et on travaille finalement davantage sur les communes rurales que sur les grandes communes urbaines, pour la raison que vous avez indiquée, en tout cas en Haute-Garonne. C'est-à-dire qu'en Haute-Garonne, nous ne travaillons pas, nous, sur la métropole toulousaine ou sur la commune d'agglomération du Sicoval, puisque ces intercommunalités ont déjà leur propre outil, qui est un EPF du Grand Toulouse. Donc nous, on travaille tout autour. Et donc, on travaille beaucoup en ruralité. Et depuis quelques années, très très fortement sur des questions de centralité. Donc ce virage qu'on nous demande de prendre, qui va être accéléré par l'arrivée de la ZAN, ça fait un moment que l'EPF Occitanie travaille sur ces questions-là, puisque on consacre énormément de notre temps et notre énergie, nos ressources financières à la question de la revitalisation des centres-bourgs. Donc on travaille pour les petites villes, les villes moyennes, les petites villes, les villages, les bourgs. On est un partenaire majeur des programmes publics que sont le programme Bourg-Centre de la région Occitanie ou le programme Petite Ville de Demain. Et on peut aller jusqu'à, en dehors de cette géographie prioritaire-là, on peut aller jusqu'à des villages de 50 habitants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre record, c'est qu'on accompagne, alors c'est pas en Haute-Garonne, c'est juste à côté, c'est dans les Hautes-Pyrénées, mais on accompagne une commune qui compte 17 habitants. Donc on travaille véritablement dans des contextes d'intervention, des contextes géographiques très différents, depuis les portes de la métropole toulousaine, donc dans le Murtin, jusqu'à la très grande ruralité. Alors moi, je vais essayer d'être très rapide, en quelques minutes, vous passer deux, trois idées simples sur les questions opérationnelles qui relèvent du foncier. Vous l'avez compris, ça a été dit, répété, on entre dans une nouvelle ère avec le zéro artificialisation net, qui va signer finalement la fin d'une période où il y avait encore beaucoup de foncier facile à travailler. Demain, ce ne sera plus le cas, alors pas immédiatement, il va quand même s'écouler peut-être une petite décennie avant que ça devienne très très rare, mais demain, le foncier plat, facile à travailler en périphérie, ça n'existera plus. Donc on est à l'aube d'une époque où il va falloir aller travailler des choses qui sont plus complexes, de l'îlot d'habitat ancien, des immeubles vacants, de la dent creuse, des parcelles dans le tissu qui sont difficiles à recomposer, mais qu'il va falloir malgré tout recomposer. Et donc on est, pour les collectivités locales, je crois, face à un défi qui est celui d'élaboration de véritables stratégies foncières. Alors ça, vous avez déjà entendu parler, je pense, à plusieurs reprises, mais je crois que là, on arrive vraiment au moment où vous ne pourrez plus vous passer de ce type d'instrument, donc une stratégie foncière qui, finalement, pour dire les choses simples, consiste à faire quoi ? Elle consiste à mettre en regard le projet, vous l'avez dit, monsieur Lefebvre, et répéter, parce que ça ne sert à rien de se mettre en quête de foncier si on n'a pas de projet. D'abord, mettre en regard votre projet de développement, tel qu'il va découler notamment des besoins que vous aurez déterminés dans le cadre de votre SCOT, hein, de la révision de votre SCOT. Et puis, un autre objet qui est la connaissance de votre gisement foncier. La connaissance du gisement foncier qui est celui de votre commune ou de votre intercommunalité. Vous allez devoir sans doute mener un petit exercice d'ingénierie, un petit exercice d'étude qui va consister à inventorier, en fait, à faire l'inventaire, pour dire les choses claires, des fonciers qui sont mutables à court terme ou à moyen terme, sur toutes vos communes, et en élargissant le regard que vous portiez sur le foncier jusqu'à présent, c'est-à-dire en allant chercher les fonciers moins faciles, c'est-à-dire le petit entrepôt, l'ancien garage automobile, donc la reconversion de friches, les immeubles vacants, les îlots vacants, la densification de dents creuses, en ayant pour ambition, à la sortie de cet exercice, d'avoir un inventaire assez hiérarchisé, de vos fonciers en vue d'identifier ceux qui sont les plus intéressants. Tout simplement les plus intéressants, ceux que vous ne pouvez pas laisser passer dans les années à venir. Et une fois que vous aurez mis en regard ces deux éléments, votre projet d'un côté et la connaissance de votre gisement foncier, vous pourrez élaborer une stratégie foncière qui, pour dire les choses de façon très claire, va consister à identifier les fonciers que vous ne pouvez pas laisser passer, les plus stratégiques. Ça peut être l'immeuble qui est en face de la mairie, sur la place du village ou de la petite ville, ou les fonciers dont vous savez qu'il ne se passera rien si jamais la puissance publique n'y va pas. Donc il y a en gros deux grandes familles, ceux que vous ne pouvez pas laisser passer, et puis ceux dont vous savez bien, parce qu'il y a des situations bloquées derrière, que vous connaissez, vous les élus, des situations juridiques, des indivisions, des choses qui sont compliquées, de la recomposition parcellaire, c'est-à-dire la nécessité de, avec 3, 4, 5 parcelles, n'en faire plus qu'une seule demain. Ça veut dire aller acheter 3, 4, 5 fonciers appartenant à des propriétaires différents. Et ces deux grandes familles vont vous, grosso modo, vous dicter les fonciers sur lesquels une action publique va être nécessaire. Alors là, peut-être juste une petite précaution quand même, mais vous l'avez dit, maîtriser l'aménagement ne nécessite pas d'acheter un foncier. Maîtriser l'aménagement urbain sur un foncier stratégique ne nécessite pas nécessairement de l'acheter. Il y a d'autres outils pour ça. Les outils qu'offre le code de l'urbanisme, par exemple. On a parlé d'OAP. Ça, c'est un outil extrêmement intéressant. Il y en a d'autres. Il y a les emplacements réservés, par exemple. Il y a les périmètres de projet. Tous ces outils qui existent depuis longtemps dans le code de l'urbanisme et qui ne sont pas forcément toujours utilisés de façon suffisamment volontariste. Puis, il existe d'autres types d'outils, des outils incitatifs. Alors, quand on parle de reconquête des logements vacants, il y a par exemple tous les dispositifs d'OPA qui doivent être également mobilisés et qui peuvent arriver à ce que vous ayez les résultats que vous attendez sans être jamais passé par une phase d'acquisition des fonciers en question. Et puis il y a des cas où vous devrez vous poser la question de l'acquisition foncière, de la maîtrise foncière publique. Et là, vous avez d'autres outils, dont nous, dont l'EPF Occitanie, puisque nous pouvons mener ce type d'action pour votre compte et à votre demande. Ce qui vous évitera de mettre de l'argent dans le poste foncier et peut-être de le mettre ailleurs où il sera mieux utilisé. La question de la stratégie foncière, à l'aube d'une période où les fonciers faciles vont disparaître, et puis à l'aube d'une période où la concurrence sur ces fonciers faciles va être de plus en plus vive, la question de la stratégie foncière est donc prépondérante. Et alors, peut-être que deux exemples de projets, parce que, effectivement, les règles du jeu se complexifient, c'est clair, il y a de plus en plus de données à prendre en compte dans la possibilité de mise en œuvre son projet de développement, mais ça n'enlève pas dès que les choses sont faisables. Donc nous, on accompagne aujourd'hui près de 300 communes sur l'ex-région Midi-Pyrénées, beaucoup plus à l'échelle de la région Occitanie, et on accompagne tous les jours des projets qui finissent par se faire quand même. Donc voilà, il y a quand même un message de grand optimisme à passer. Donc là, vous en avez deux. Vous en avez un premier qui est une opération qui vient d'être livrée, sur la commune de Sémalens, donc une petite commune de 2000 habitants dans le Tarn, à la limite du Tarn et la Haute-Garonne, qui est une commune qui relève du programme Bourg-Centre de la région Occitanie et qui a fait quelque chose de très très intéressant et très pertinent, qui avait identifié un bien. Alors vous avez sur la photo de gauche, vous avez le bien avant et puis sur la droite, le bien après, qui vient d'être livré. C'est un immeuble qui était en face de l'hôtel de ville, et vacant, qui allait partir à la vente et que la collectivité souhaitait reconquérir pour y faire quelques logements locatifs dont elle manque cruellement pour accueillir certains publics, notamment des jeunes en début de trajectoire professionnelle et à l'autre extrême du spectre, des seniors qui avaient besoin de revenir sur le centre-ville parce que c'est une ville qui a encore des commerces, des services, une vitalité commerciale, il y a du service et du service médical notamment, un élément extrêmement important. Et qui se voyait bien à cet endroit-là essayer d'aménager des commerces. Et là, la commune a fait appel à nous et on l'a accompagné sur 3 ans pour aboutir à ce projet-là qui voit donc la création de 4 logements, là où il y en avait 2 avant, dans l'immeuble, donc une densification, on en parlait, et la création de 3 cellules commerciales là où il n'y avait rien auparavant. Et tout est parti. Vraiment, tout est parti. C'est-à-dire que les logements, ils ont été loués avant même, longtemps avant que l'opération soit livrée. Il y avait une file d'attente assez impressionnante. Et il en va de même pour les 3 cellules commerciales. Mais pour faire ça, il faut prendre des risques. C'est-à-dire que la collectivité a pris un risque parce qu'elle nous a demandé d'acheter, de porter ce bien, alors qu'elle savait qu'elle n'aurait probablement pas d'opérateur pour faire. Et donc, elle a eu recours à un montage un peu agile, c'est-à-dire que c'est elle qui fait. Elle fait les commerces. Elle conserve la propriété de l'ensemble, donc on lui a revendu l'ensemble. Elle conserve les commerces, les rez-de-chaussée, qu'elle a aménagé elle-même, c'est-à-dire qu'elle a financé les travaux d'aménagement des cellules commerciales. Et puis, elle a confié les étages à un opérateur spécialisé qui est Solia Tarn. Elle a confié les étages au moyen d'un bail emphytéotique. Je vous dis tout ça pour vous dire le côté à façon, voilà, des montages qu'il faut pouvoir aller mobiliser. C'est faisable pour pouvoir sortir ce type de projet. Elle a confié donc les étages par un bail emphytéotique longue durée à un opérateur qui, lui, se charge de la réhabilitation et de la gestion des logements sur une période de 30 ans. C'est pas facile, mais ça se fait. Voilà. On n'a volontairement pas pris d'exemple sur les communes du secteur, mais il y a une opération de ce type à Bérat qui a été livrée il y a un an et qu'on a accompagné également avec la mairie de la commune de Bérat. Deuxième exemple, alors là, on va passer sur un tout autre type de projet. Alors, le projet, il n'est pas encore sorti, là, il est en cours. On est là sur la commune de Boulogne, donc là on est sur le nord de la Haute-Garonne, sur le couloir entre Toulouse et Montauban, donc clairement une zone qui est exposée à la pression foncière. Et là on est sur un autre type de projet, mais qui montre aussi ce qu'il est possible de faire certainement sur certaines de vos communes. Reconversion de friches, on avait là aussi à 100 mètres de la mairie un ancien gamme vert qui est parti ailleurs. Et puis juste à côté de cette parcelle occupée par un ancien gamme vert, il y avait une parcelle résidentielle, une belle maison toulousaine, avec sur cette parcelle deux pavillons de rapport qui avaient été construits dans les années 80 par le propriétaire de la maison toulousaine, qui l'occupait. Il occupait cette grande maison, et puis il avait densifié sa parcelle. Et de tout ça, on fait un projet unique qui va, lui, alors, d'une certaine envergure, là, puisque c'est 60 logements et un pôle paramédical qui va sortir, mais qui illustre deux notions, reconversion de friches et densification de parcelles résidentielles. On conserve la maison toulousaine, évidemment, parce qu'elle a une forte valeur patrimoniale. Dans cette maison seront créés 6 ou 8 logements, je crois. Elle est assez grande. Par contre, on démolit les immeubles de rapport qui dataient du début des années 2000, qui n'ont aucun intérêt, et qui permettent de densifier la parcelle en plein cœur de la commune de Boulogne. Voilà des exemples de projets qu'on aura tous collectivement à dupliquer et à multiplier dans les années à venir, encore une fois, parce que les solutions qui étaient celles des décennies passées, très certainement, n'auront plus cours. Dans le futur proche.
Merci à vous pour cette concision, franchement bravo. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Monsieur Buisson ?
Je demandais le temps de portage.
Oui, le temps du portage moyen. Alors, on s'engage, nous, sur des durées de 8 ans. Quelquefois, ça peut aller au-delà, dans certains types de conventionnement. Quelquefois, on peut aller jusqu'à des durées de 13 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on a 13 ans pour travailler. Alors, vous allez me dire 13 ans, c'est peut-être un peu beaucoup. Le temps de l'aménagement est un temps long quand même. C'est-à-dire que pour sortir des opérations, y compris des opérations simples, il faut au minimum 3-4 ans. Quoi. L'opération de Sémalens, la commune avait commencé à y réfléchir en 2017. Elle a été livrée cet hiver, hein, 2023. Et nous, d'expérience, ce qu'on constate, c'est quand on commence à travailler sur un sujet, entre le moment où on achète et le moment où on vend, à l'EPF Occitanie, aujourd'hui, le temps moyen de portage est 3 ans, 3 ans et demi. Mais on s'attend à ce qu'il s'allonge, parce qu'on traite des objets de plus en plus complexes, très souvent dans des contextes d'intervention un peu compliqués. On a parlé tout à l'heure de l'ABF. Il y a souvent des dimensions patrimoniales à prendre en compte, donc forcément, ça allonge un peu les temps. Donc on s'attend à des temps de portage qui partent plutôt sur 4 à 5 ans. Quoi. Donc c'est le temps entre le moment où on achète et le moment où on revend. C'est pas le temps entre le moment où on achète et le moment où le projet se livre. Les taux ? Ah non, mais nous, on ne fonctionne pas comme ça. Alors j'ai pas eu le temps d'expliquer tout ça parce que ça prendrait beaucoup de temps. Mais on ne fonctionne pas sur de la ressource bancaire, nous. Donc, nous, on fonctionne ça sur fonds propres, c'est-à-dire sur une ressource fiscale. Donc, il n'y a pas de frais financiers attachés au portage de l'EPF. Donc, nous, on revend à ce que ça nous a coûté d'acheter. Sauf sur ces opérations-là, parce que je n'ai pas non plus eu le temps de l'expliquer, mais je peux en dire un mot quand même. Pour que ces opérations sortent, parce qu'effectivement, on n'a pas évoqué la question économique, mais elle est centrale hein, dans la question du renouvellement urbain aujourd'hui. On va devoir tous faire beaucoup plus d'opérations compliquées demain. Reconquête de l'habitat vacant, renouvellement urbain. Ça coûte beaucoup plus cher que de faire des opérations classiques. Ça coûte beaucoup plus cher à l'instant T. En analyse, en cycle de vie ou en coût global, ça coûte moins cher. Mais sauf que celui qui fait à l'instant T, il a besoin de boucler son plan de financement à ce moment-là. Quoi. Et pour permettre ce type d'opération, comme celle de Sémalens, 4 logements, ou comme celle de Boulogne, reconversion de friches, l'EPF Occitanie a mis en place un dispositif de minoration foncière, c'est-à-dire que ça nous permet de revendre beaucoup moins cher que ce que ça nous a coûté, parce qu'on sait que c'est le seul moyen
de permettre aux opérateurs qui vont arriver derrière, ou à la commune, d'espérer boucler son plan de financement. Donc on essaye de faire un effort sur les coûts fonciers, c'est-à-dire on essaye de diminuer au maximum les coûts fonciers. Donc ça, c'est un effort sur fonds propres fait par l'EPF, qui tourne à plein aujourd'hui.